Si vous passez dans le quartier de Firminy-Vert, vous avez pu remarquer des ouvriers sur des échafaudages s'affairer sur la façade de l'église Saint-Pierre de Le Corbusier. Ce sont des travaux sur les parements en béton qui sont commandés par Saint-Étienne Métropole. L'église Saint-Pierre est un bâtiment historique classé, ce qui nécessite des démarches un peu plus contraignantes quant à la tenue de la rénovation de la façade. Cette émission Module Onde, programme mensuel proposé par Radio Ondaine et le site Le Corbusier de Firminy, intervient après une réunion de chantier. Discussion avec Laurent Giuliana, agent d'accueil et de surveillance sur le site Le Corbusier, notamment en charge de la maintenance et de la logistique sur l'église Saint-Pierre, et Denis Ferraton, chargé d'opérations de construction à Saint-Étienne Métropole.
Alors déjà, il faut comprendre que nous, Saint-Étienne Métropole, ne rénove pas une église, mais un monument historique. Donc du coup, avant tout travaux, il faut demander des autorisations administratives, et notamment à la DREC. Et donc on a des dépôts de permis. Alors là, en l'occurrence, c'était des déclarations de travaux qui sont soumis à autorisation. Donc en principe, il y a à peu près 6 mois... De délai pour avoir l'autorisation, et une fois qu'on a l'autorisation, et bien on peut faire les travaux. Donc voilà, c'est quand même des travaux qui durent assez dans le temps, quoi.
À la base, à quel moment on se dit qu'il faut faire des travaux, responsable de la maintenance? Donc on fait le tour un peu du bâtiment, et puis vous, Laurent, qu'est-ce que vous avez constaté finalement, et avec toute l'équipe?
Alors, ce qu'on a constaté, c'est principalement des noircissures sur l'ensemble de l'édifice, dû à un mélange de poussière et de pollution, ce qui a provoqué en fait l'apparition de mousse qui retiennent l'humidité. Et du fait de la retenue d'humidité, il y a plus de mousse, plus il y a de mousse, plus il y a d'humidité. Donc, c'est sans fin. Donc, c'est pour ça que Saint-Étienne Métropole a entrepris le nettoyage des façades. Donc après plusieurs essais, les travaux de nettoyage ont démarré le 27 janvier 2020. Malheureusement, ensuite avec la crise Covid, les travaux se sont arrêtés. C'est pour ça qu'on est sur l'achèvement en fait du chantier à l'heure actuelle.
Alors ces travaux étaient partis sur une petite surface de cette façade-là, et puis en avançant, on découvre que finalement ça va être un peu plus long parce qu'on va tout refaire. Ici, comment on fait ces appels d'offres des entreprises qui vont venir, ces propositions, comment on va choisir le maître d'œuvre, comment on va choisir l'architecte qui va suivre tout ça, comment on va choisir l'entreprise?
Alors, à Saint-Étienne Métropole, donc concernant les maîtres d'œuvre, on a ce qu'on appelle des marchés cadres, qui sont des marchés en fait qui sont déjà un petit peu lancés en amont, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite pour retenir des architectes. En l'occurrence ici, c'est un architecte du patrimoine. C'est donc Luc Goupil qui a été retenu pour faire l'ensemble pour le suivi des travaux. Donc effectivement, pour les entreprises, c'est un peu la même chose, même si là, on n'est pas de marché cadre, on a lancé un marché standard où effectivement, on a fait un appel d'offres, hein, tout simplement. Et donc c'est l'entreprise Ellipse qui a été retenue pour la partie maçonnerie nettoyage. Donc au départ, effectivement, un premier marché de nettoyage de l'ensemble des façades a été fait, donc avec un système de vapeur d'eau qui était un système un peu particulier qui a été imposé par la DRAC. Donc, et lors de ce nettoyage, on s'est aperçu qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la partie basse de l'ancien dôme de l'église, avec un parement qui commençait à s'enlever. Donc force de regarder un petit peu tout autour, on s'est aperçu que le problème, il était beaucoup plus important que ce qu'on imaginait au départ. Et ça nous a amené à faire un deuxième marché pour justement rénover une partie de ce parement qui s'enlevait. Donc on a monté effectivement un échafaudage pour aller faire ces travaux. Et malheureusement, quand on a, ou heureusement, c'est pas comment il faut le dire, mais en tout cas, quand on a commencé à regarder avec l'échafaudage, on s'est aperçu que finalement, il fallait tout refaire, quoi. Donc c'est vrai qu'au départ, pour un nettoyage, finalement, on se retrouve à refaire tout un parement autour de l'église. Donc effectivement, c'était pas des travaux prévus. Voilà, ça implique des décisions au niveau de Saint-Étienne Métropole qui ont été prises, et puis ça implique aussi un chantier qui dure. Alors effectivement, il y a eu la partie Covid, mais au-delà de ça, on a trouvé malheureusement des défauts sur cette église et sur ce monument historique, et il a fallu pour nous faire ces travaux. Voilà.
Alors pour nos auditeurs et pour essayer de visualiser, cette église Saint-Pierre peut être représentée par un dôme, hein, donc absolument pas carré, hein, des formes plutôt arrondies, un aspect béton. Quand on parle de parement, qu'est-ce que c'est techniquement parlant, comment on le traduit pour quelqu'un qui n'est pas du bâtiment comme moi?
Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que beaucoup de personnes le savent, il y avait une partie historique de l'église qui avait été faite il y a déjà quelques années, dans les années 2000.
La réalisation de l'église sur la partie basse, c'est 71 jusqu'à 78, et ensuite une reprise des travaux à partir de début 2003 jusqu'à l'inauguration en 2006. Donc on avait cette base carrée qui était réalisée, et en fait à la reprise du chantier, donc en 2003, sur la réalisation de toute la partie supérieure, donc la coque en béton auto-nivelant auto-plaçant, pour rattraper les couleurs, on a décidé l'application d'un enduit, donc sur la partie béton des années 70. Et en fait, c'est cet enduit qui avait des problèmes d'accroche sur le béton. Et c'est ces bétons qui sont partis et qu'on reprend en intégralité à l'heure actuelle.
Alors pour continuer, donc cet aspect esthétique, alors il n'y a pas que l'aspect esthétique, hein, il y a aussi le fait d'avoir une couche d'étanchéité sur cette partie-là. Quels sont les différents principes de rénovation ?
Alors cette partie basse du dôme, en fait, la première chose, il a fallu piquer les anciens enduits, hein, puisqu'effectivement, ils ne tenaient plus sur l'ancien béton. Donc, première phase, on pique, on enlève tout, ça fait du bruit, Laurent. Mais voilà, c'est nécessaire, c'est indispensable, hein, c'est la première phase. Et la deuxième phase, après, c'est d'appliquer une première couche qui permet un premier passage. On fait des passes, hein, ce qu'on appelle en béton. Donc, on applique tout simplement du ciment avec du grillage, hein, pour faire tenir ce ciment, donc sur un premier passage. Et puis, la deuxième, c'est la couche, on va dire, de finition. Donc là, effectivement, la plus grosse difficulté, c'est de choisir la couleur de l'enduit pour que ça corresponde au niveau historique. On prend toujours ce qui existait avant. Donc il a fallu retrouver historiquement la couleur du parement pour pouvoir l'appliquer, donc sous contrôle de la DREC. Et voilà, donc aujourd'hui, on est en train, on a fait quelques essais, mais on est en train d'appliquer les premières passes et puis de faire la finition voilà, dans les prochains mois.
Alors là, justement, pour coller au mieux à l'aspect historique de ce bâtiment-là, est-ce qu'on a une marge de manœuvre ou le cahier des charges fait qu'il faut trouver le même nuancier, la même couleur
Non, en fait, il y a une règle dans les monuments historiques, c'est qu'on fait comme c'était avant. En gros, on a pris, voilà, comme j'ai dit, on a été chercher dans les archives, récupérer un petit peu les enduits qui avaient été utilisés à l'époque, on les a retrouvés, on a récupéré les mêmes référentiels, et on a été voir tout simplement les constructeurs, là, en l'occurrence c'est Lanco, ils nous ont donné les mêmes produits, et donc du coup on ne se pose pas beaucoup plus de questions, on applique les mêmes produits, on met les mêmes défauts, s'il y a des défauts sur le bâtiment, et voilà, alors, sous contrôle de la DREC, hein, qui vérifie tout ça, mais aujourd'hui, nous on a fait que refaire ce qui avait été fait voilà, il y a quelques années, mais on ne change rien. Ça, c'est le gros principe des travaux dans le monument historique.
On l'a bien compris, hein, on était parti sur une, entre guillemets, petite intervention qui s'est transformée sur une intervention totale. Ici, on a un calendrier aussi, c'est un lieu qui, en temps normal, accueille des visiteurs, accueille ses expositions. Hasard du calendrier, il est tombé sur une période de fermeture. Peut-être que ça a aussi arrangé certaines choses dues au Covid. La fin du chantier est prévue pour quand et est-ce que voilà, ce délai est fixe du fait de la nature du bâtiment?
Alors aujourd'hui, on avait différentes opérations. On avait effectivement ces travaux de parement. On avait aussi le changement de la vidéosurveillance, etc. Donc tous ces travaux ont été faits. Aujourd'hui, donc, ce travail sur le parement va nous amener normalement jusqu'à fin juillet 2021. Alors, je mets toujours quelques parenthèses parce qu'on est quand même sur des travaux qui dépendent un petit peu du temps. Donc voilà, on ne sait pas exactement quel temps il va faire dans les prochains jours. S'il y a beaucoup de pluie, par exemple, c'est compliqué de travailler. Mais globalement, on est sur l'été. Voilà. Après, on va essayer de libérer les façades assez rapidement, notamment la façade de l'entrée, pour effectivement, si en cas de, besoin, notamment si le public est de nouveau va pouvoir venir de nouveau à l'église, voilà, qu'elle puisse y accéder en toute sécurité. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est quand même de libérer les façades le plus rapidement possible. Mais on devrait aller quand même jusqu'à fin juillet, peut-être début août, on va voir.
Des travaux longs sur la durée, avec du bruit, le quotidien ici, Laurent, comment ça se passe? Et puis vous, dans votre activité, finalement, est-ce que vous vérifiez aussi, alors non pas la qualité des travaux, mais au moins la bonne tenue quand les ouvriers ne sont pas là, des échafaudages, etc.
Alors évidemment, on surveille toute la partie... La partie qui est fermée pour le chantier, donc c'est sur les rondes en matinée, mais généralement les ouvriers sont là avant nous. Après la plus grosse contrainte, effectivement, ça reste le bruit, parce que le béton a cette particularité de transmettre le son. Donc c'est extrêmement bruyant sur toutes les phases de piquage. Et on fait avec. Donc on serait en capacité d'accueillir du public, et le public aurait la même contrainte que nous au niveau de l'aspect sonore.
Saint-Étienne Métropole est propriétaire de l'église Saint-Pierre de Le Corbusier, entre autres sites patrimoniaux et historiques sur tous nos territoires. Et nous avons le plaisir de rencontrer Robert Carulac, qui est vice-président de Saint-Étienne Métropole, en charge du patrimoine et du tourisme. Comment on gère les sites classés historiques au sein de Saint-Étienne Métropole? Qui sont les personnes finalement qui en sont en responsabilité?
Il y a déjà, donc, pour la gestion du site, l'organisation des visites, eh bien, Saint-Étienne Tourisme, hein, l'office de tourisme de Saint-Étienne Métropole, qui bien évidemment, fait tout pour qu'il y ait des offres touristiques adaptées aux besoins des visiteurs, hein, à la fois sur le plan pédagogique, lorsqu'il s'agit d'élèves, par exemple, mais aussi pour tous les passionnés de Le Corbusier, pour le grand public, pour un public populaire, familial. Bref, on essaie vraiment de s'adresser à tous. Mais ça, j'allais dire, c'est la gestion touristique du site. Alors, il y a aussi, bien évidemment, la gestion patrimoniale. Et nous avons une directrice de site, hein, Géraldine Dabrigeon, qui a à la fois la compétence touristique, justement, hein, pour faire vivre, animer le site, et aussi une compétence culturelle en matière de patrimoine et aussi en matière d'animation culturelle du site. Mais tout cela se fait en étroite relation avec le pays d'art et d'histoire, qui est en cours de construction et qui sera officialisé au printemps 2022, qui est pour l'instant porté donc par le service ville d'art et d'histoire de la ville de Saint-Étienne, et puis également avec les services de l'État, et notamment l'architecte des bâtiments de France. Et c'est vrai que quand on intervient sur le site, d'une manière générale, on agit avec son conseil, hein, avec son soutien, notamment sur tout ce qui concerne les techniques, hein, qui permettent l'entretien de ce bâtiment dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que si les travaux ont connu effectivement un calendrier un petit peu rallongé, c'est aussi dû au fait qu'il a fallu trouver des produits spécifiques permettant à la fois de nettoyer, mais aussi de préserver et d'empêcher que le béton de l'église ne se ressalisse trop vite.
Alors, on parle du site Le Corbusier sur Firminy. Sans tous les lister, quels sont les autres sites qui font partie finalement de notre patrimoine au niveau de Saint-Étienne Métropole? Peut-être les sites remarquables, les plus anciens, les plus modernes. Expliquez-nous un peu d'où on part et jusqu'où on arrive.
Je crois qu'il y a un patrimoine à Saint-Étienne Métropole qui est d'une très très grande, voire même presque, je dirais, d'une incroyable diversité, hein, puisque ça part de l'aqueduc du Gier, ça passe par donc des vestiges romains aussi, par exemple sur la commune de Chagnon. Il y a le Moyen Âge avec la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarin. Il y a évidemment tout le passé industriel, tout le patrimoine industriel qui est absolument considérable, et pour ne pas dire unique en France, voire en Europe. Il y a aussi, bien sûr, des éléments de patrimoine qui sont liés au sport, le stade Geoffroy-Guichard. Il y a aussi, également ce qu'on pourrait appeler le patrimoine du 21e siècle, cette fois-ci, je pense à la Cité du Design, je pense au Zénith de Saint-Étienne. En patrimoine du 20e, bien sûr, nous avons le site Le Corbusier, mais nous avons aussi des éléments remarquables en termes de logements sociaux sur les communes de Saint-Chamond, le centre historique de Rive-de-Gier, le quartier de Beaulieu à Saint-Étienne. Bon, sur toute la vallée de l'Ondaine aussi, il y a des sites qui caractérisent ces formes d'habitat qui étaient liées au développement de l'industrie. Bref, il y a un patrimoine extrêmement riche qui mérite donc des visites organisées, des visites thématiques, et c'est ce que nous employons à mettre en place avec l'Office de tourisme et dans le cadre de la préfiguration du pays d'art et d'histoire.
Alors si on vient un peu au sujet qui sont ces travaux de rénovation et donc sur les différents sites, on imagine bien on n'est pas au niveau d'un particulier qui fait venir l'artisan et qui valide ou pas un devis. Ici, il y a quand même, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut respecter la fabrication et puis les éléments originaux de ces bâtiments-là.
Et les règles des marchés publics aussi, les mises en concurrence et autres.
Voilà.
Nécessités administratives, dirons-nous, mais qui permettent aussi la transparence dans l'attribution des marchés publics.
Dans cet entretien-là, sans dire tous les chiffres, mais combien ça coûte finalement à entretenir un site historique, un site classé ?
Là, sur le mandat précédent, donc 2014-2020, on a eu un peu plus de 600 000 euros d'investissement pour justement la maintenance, l'entretien et aussi un peu le développement du site Le Corbusier, hors travaux du stade, qui, eux, étaient financés à part, mais l'enveloppe globale du stade, mais là, les travaux sont portés par la ville de Firminy, de 6 millions d'euros avec une participation d'un million d'euros de Saint-Étienne Métropole.
Alors ici, on imagine bien qu'il y a un grand nombre d'intervenants. On le citait tout à l'heure.
Il y a la région.
La région, la DRAC.
Au Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC et plus globalement les services patrimoniaux de l'État à travers la personne de l'architecte des bâtiments de France. La ville de Firminy, bien sûr, au premier chef. Le département. Et d'ailleurs, sur le projet du stade, il y a eu un cofinancement, ville, département, région, Saint-Étienne Métropole.
Alors, on parle de tourisme aujourd'hui, ce qui nous paraît un peu éloigné dans la période dans laquelle nous vivons. Est-ce que cette crise du Covid change la donne sur l'accueil du public ? Alors, aujourd'hui, on n'accueille personne, mais pour le retour, est-ce que ça a occupé vos équipes à réfléchir ?
Ça a changé déjà l'été passé, puisque l'été passé, en fait, les sites ont pu rouvrir. Et c'est vrai qu'on a vu une croissance importante du tourisme de proximité, donc de nature essentiellement régionale, mais aussi du tourisme familial avec des déplacements un peu plus lointains, donc des personnes qui sont nées sur le territoire de Saint-Étienne Métropole et qui viennent revoir leur famille à l'occasion des vacances d'été et qui du coup en profitent pour visiter un certain nombre de sites sur le territoire. On a vu aussi de la part des étrangers, même s'il y en avait moins que les saisons précédentes, un public un peu nouveau de visiteurs qui souhaitent sortir des sentiers battus et qui, en lien avec la pandémie recherchait des sites où il y avait un peu moins de monde, hein, en termes de fréquentation, et où il y avait certaines curiosités ou certaines pépites à découvrir. Et effectivement, le site Le Corbusier s'inscrit tout à fait dans cette définition, enfin dans ces définitions, et a donc cette attractivité-là pour des gens curieux qui viennent visiter un site patrimonial unique en Europe, hein, et qui est habité en plus, qui est vivant. Il y a une vraie maison de la culture, il y a une vraie église, même si, bon, c'est aussi un centre culturel, cette église, d'une certaine manière, mais c'est une église dont l'autel est consacré. Il y a des messes, comme vous le savez, une fois par mois. Il y a un vrai stade avec de vraies pratiques sportives. Bon, là, les travaux ont un petit peu interrompu cela, mais ça va redémarrer bientôt. Il y a une piscine également. Il y a une vraie unité d'habitation avec, donc, évidemment, à l'intérieur des gens qui y vivent. Finalement, ces sites patrimoniaux qui vivants sont assez rares. Il y a beaucoup de curieux qui ont envie de vivre l'expérience Le Corbusier. Et c'est un peu la même chose à la Chartreuse. On a un autre site patrimonial qui lui est médiéval, hein, qui date du XIIIe siècle, qui est aussi un site habité. Et j'allais dire, le fait que ces sites soient vivants, habités, qu'ils aient encore des fonctions aujourd'hui, font qu'on n'est pas dans un cadre muséal, mais qu'on vient effectivement découvrir aussi des personnes qui vivent sur place et qui peuvent être des médiateurs intéressants pour ces sites.
Alors, avec tous les sites que vous avez cités, et puis parlons des sites naturels, hein, les Gorges de la Loire, comment on fait de Saint-Étienne Métropole un pôle d'attractivité pour les touristes ?
Il y a des sites majeurs, effectivement. D'ailleurs, c'est comme ça que la région les classe, hein. Donc, le site Le Corbusier est un site majeur, hein, sur le plan touristique, hein. C'est-à-dire que, à lui seul, il est un point d'attractivité essentiel, hein, extrêmement important. Bon, il y en a d'autres, hein, le stade Geoffroy Guichard, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, bon, des sites qui génèrent des flux importants, qui ont un caractère, une singularité, qui les rend attractifs aussi bien en France que dans toute l'Europe, voire pour Le Corbusier, dans une grande partie de l'Asie. Donc notre travail, nous, c'est de mettre en valeur évidemment ces sites majeurs, mais de profiter du fait qu'ils constituent des points d'entrée sur le territoire pour ensuite mettre en valeur d'autres pépites du territoire. Et c'est la raison pour laquelle on a créé donc le concept Saint-Étienne hors cadre, hein, qui est un concept de destination, qui propose des expériences innovantes, uniques finalement, sur le territoire de Saint-Étienne, en relation avec évidemment tous les éléments majeurs, hein, qui font la force et l'identité du territoire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan sportif, mais aussi l'idée que la richesse, ce sont aussi les habitants. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer des contacts possibles avec les habitants pour que finalement les visiteurs viennent partager un peu de notre vie quotidienne et s'en nourrir, s'en enrichir et en ramener des souvenirs.
Alors, en ce mois d'avril en 2021, une période empêchée, nouveau confinement, restriction des déplacements, on est quand même impatient de pouvoir retourner visiter ces sites-là, retrouver du mouvement et puis des touristes. Ici, on imagine quoi pour cet été ? Est-ce que au sein de Saint-Étienne Tourisme, on imagine de reprendre de la même manière que l'année dernière ? Est-ce que, bon, j'imagine qu'on est toujours dans l'expectative, mais voilà, qu'est-ce qui est d'ores et déjà prévu pour l'été ?
Alors, ce qui a changé, évidemment, c'est que l'été devait être placé sous le signe de la Biennale de Design, hein, puisque la Biennale de Design proposait ses animations et sa programmation sur 4 mois. Donc ça incluait, bien évidemment, juillet, août et septembre. Bon, le fait que la Biennale ait dû être reportée d'une année, ça nous a amené à réviser nos plans. Mais on est prêt, hein, à faire visiter nos sites, à faire visiter Saint-Étienne Métropole, mais on évite de bâtir des projets qui pourraient éventuellement ne pas pouvoir être réalisés.
Bon, on comprend bien.
Dans l'expectative, notamment,
oui.
Sur l'exposition Manuel Gautran, qui devait être présentée à l'église Le Corbusier. Manuel Gautran, c'est une architecte française, mais de renommée internationale, qui a notamment réalisé le bâtiment jaune, hein, qui accueille les services de Saint-Étienne Métropole, hein, qui se situe rue Gruner, à l'angle de la rue Gruner, de la rue de la Monta, à proximité de la gare de Château-Creux à Saint-Étienne. C'est un bâtiment qui est connu. Et donc Manuel Gautran propose dans cette exposition une rétrospective de l'ensemble de son œuvre, avec les grandes réalisations qu'elle a faites dans le monde entier. Alors techniquement, on est prêt.
Oui.
Simplement, bon, s'il n'y a pas de réouverture d'ici le mois de juin, enfin de réouverture avec des conditions d'accès quand même assouplies, même s'il faudra sans doute respecter encore des restrictions sanitaires, à ce moment-là, on opterait pour un report et on proposerait des animations plus légères sur l'été. Mais pour l'instant, l'expo Manuel Gautran est toujours programmée. On verra ce qu'il en est, ce qui sera autorisé ou pas. On a de beaux projets pour l'été, quoi qu'il en soit, avec ce projet phare. Mais ce projet phare, si jamais les conditions ne sont pas réunies, compte tenu de son importance, compte tenu qu'il y a déjà un catalogue qui a été publié par la revue d'architecture Archistorm, enfin, qui a une grande mobilisation du monde de l'architecture autour de cette exposition, eh bien, si jamais les conditions de visite ne sont pas réunies, on la reportera de quelques mois.
Et on s'en fera écho sur l'antenne de Radio Ondaine, Monsieur Carulac.
Avec grand plaisir, merci.
Merci d'avoir répondu à ces quelques questions.
Avec plaisir, encore une fois. Et un grand bonjour à tous vos auditeurs.